m'entends pas? T'entends rien? Oh!
Bonsoir, bonsoir, c'est Supersonic. Bribes et traces. Bribes et traces, écho immédiat et inscription dans le sillon. Que devient le son dans ta voix? Que devient le son de ta voix quand il part dans l'air? Que devient le son de ta voix quand il s'inscrit sur la bande ou sur le fichier? C'est fou tout ce qui survit, c'est fou tout ce qui continue de résonner, encore faut-il s'en occuper. Voilà toute la question, prendre en charge le son, prendre soin du son, le son qui fixe et nous propose un jeu constant avec le temps. Salut les androïdes, venez jouer avec nous, bienvenue. Ce soir, on plonge dans une palette, celle des sons du compositeur Luc Ferrari. Disparu en 2005, Ferrari a laissé une vie de collectage de sons, mais il a bien fallu les sauvegarder. Et la voilà numérisée après plusieurs années de travail, cette palette. Tout à l'heure, son épouse, la compositrice Brunhilde Ferrari et l'ingénieur du son Alice Berger viendront nous en parler. Mais d'abord quelques vies en son. Rendez-vous avec une portraitiste, Sophie Simoneau.
Bonjour.
Oui, vous êtes à l'heure.
Bonjour.
Vous avez le micro.
Alors, ça va?
Je viens pour
la route.
C'est bien ici? Vous êtes bien jeune?
Oui, oui.
Emmanuel,
d'accord. Vous n'avez pas eu de problème?
Non, pas de problème.
Bon, je... allez, rentrez.
Bonjour, vous êtes Manou?
Comment êtes... allez-vous?
Vous êtes Manou?
Ah oui.
C'est vous. Bonjour, je suis Sophie. Bonjour, je viens pour la biographie.
Mais je m'en doute. Voilà, rentrez.
En tout cas, merci de me recevoir. Je sais que la proposition de la famille de faire la biographie vous a un petit peu prise de court.
Soyez indulgents, parce que moi, je ne tiens pas debout. Hein.
Non, on n'était pas réticents, mais on était surpris, quoi. On ne s'y attendait pas.
Ça se fait pas tous les jours, des trucs comme ça. Ah, vous avouerez, franchement.
Bah,
raconter sa vie, quoi, en somme.
Ça va bien se passer.
Et
ça va bien se passer.
Bah oui, il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas de raison, pourquoi pas. Elle n'a pas l'air féroce, hein.
Ouais.
Raconter sa vie, en somme. Bonsoir, Sophie Simoneau.
Bonsoir.
Portraitiste, je disais au départ, est-ce que ça vous va, ça, portraitiste?
Oui, c'est pas mal. Portraiterie, portraitiste, c'est pas facile à dire, ouais. C'est ça le problème. Mais sinon, on peut dire documentariste, ouais. biographe pour anonyme, voilà, c'est assez laid aussi. Mais portrait sonore, oui, portraitiste sonore, c'est pas mal.
Le portrait sonore, ça vous en aviez fait, j'imagine, quand vous avez travaillé dans cette maison, ici à Radio France, ouais. France Inter, France Culture, le MOUV.
Le MOUV, oui, ouais. Mais le tout début, enfin en tout cas le gros morceau, ça a été Mermet,
ouais.
Pendant 3 ans à peu près. Avant il y avait eu effectivement RFI, il y a eu Culture et puis après il y a eu toute la création du MOUV. Mais disons que on peut dire que des portraits de gens, ça fait 18 ans que j'en fais, quoi.
Ouais, ouais. Et une continuité entre ce travail donc à la radio dont on vient de parler. Par la suite, vous avez fait aussi du documentaire avec des personnes comme Daniel Carlin, Rémi Lenné, travail documentaire à la télévision.
C'est-à-dire qu'après, je suis passée, j'ai trahi la radio. Enfin, disons que on m'a débauchée, j'ai fait du documentaire télé, mais c'était plus par affinité d'esprit, d'état d'esprit. En fait, c'était pas tellement le support. Bon, après, j'ai déchanté. Je me suis dit que la radio, c'était quand même vachement. Enfin, ça me plaisait plus, quand même, pour la création. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus facile, enfin, ça m'inspire plus. Mais oui, il y a une continuité. En fait, quand j'étais chez Mermet déjà, je me disais toujours ce serait génial que les gens puissent avoir leur Mermet à soi. Enfin, leur émission, parce que c'est vrai que chez Mermet, on faisait des portraits de gens, c'était toujours assez tendre, assez sympa, enfin, c'était super, quoi. Mm-hmm. Et je me suis toujours dit ce serait génial que les gens puissent avoir leur Mermet à eux. Je me disais déjà ça à l'époque. Et puis, En fait, j'ai un jour sur Inter, j'ai entendu une émission sur une biographe pour anonyme, mais qui faisait ça par écrit. Mmh. Et là, j'ai eu un flash et je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire ça. C'est ça que j'ai envie de faire. Enfin, c'était faire raconter. Donc, c'était ce que je faisais en fait, mais le faire pour les gens. Mmh. Et c'était. C'était le faire sans intermédiaire, c'était le faire directement pour eux et c'était le faire avec qualité, mais pour tout le monde, quoi.
C'est ça, donc, qui vous a donné l'idée de devenir cette biographe sonore pour anonyme, pour tout le monde, en fait, pour tout un chacun.
Bah, en fait, la biographie écrite, ça existe. Enfin, il y a beaucoup de biographes qui le font par écrit, mais il y avait un. Je ne comprenais pas, en fait, comment on pouvait. Enfin, j'adore la lecture, j'adore les livres, il n'y a pas de souci, mais j'arrivais pas à comprendre comment on pouvait faire raconter la vie à quelqu'un sans avoir sa voix, sans avoir la manière dont lui, il raconte son histoire. Ses silences, ses rires, ses non-dits. Enfin, voilà. Comment, lui, avec sa voix, comment on pouvait se priver de ça? En fait, j'arrivais pas à comprendre. Je trouvais que c'était se priver de au moins 50% de ce qui fait la force de la vie, parce que la voix, c'est la vie, et que si on n'a pas la voix, enfin, alors bon, après, je critique pas du tout la biographie écrite, mais donc il y a eu un enchaînement de choses comme ça, et puis il y a surtout aussi, je crois que de manière personnelle, j'ai une relation particulière à la trace et aux souvenirs et aux souvenirs sonores. Mmh. Enfin, ça, c'est voilà.
Mais finalement, vous travaillez presque avec les gens que vous rencontrez pour fabriquer leur propre biographie sonore. Cette question-là, parce que le son est important, évidemment, dans la fabrication, mais dans le propos même de certaines des biographies. Vous parlez avec eux de leur vie et on se rend compte qu'une chanson, par exemple, vous sert dans l'entretien et puis sert aussi à faire ressurgir des souvenirs.
Bah, disons que j'essaie de me servir quand on. Parce que le but, c'est de fabriquer, on va dire. J'aime pas. Des fois, je dis, c'est l'émission de radio dont vous êtes le héros. Mmh. Bon, j'aime pas cette appellation parce que, avec héros, on pense tout de suite la gloriole, le côté un peu m'as-tu vu qu'on y met derrière. Mais en fait, ça veut juste dire, voilà, vous avez une émission de qualité pour vous. Donc, je le montre vraiment comme une émission de radio. Après, effectivement, je donne les rushs si les gens le veulent parce que ils peuvent avoir envie un jour de s'y replonger. Mais moi, mon but, c'est vraiment de leur faire, entre guillemets, une émission de radio qui puisse écouter de manière agréable et surtout faire écouter et transmettre. Parce que je considère que la transmission, si elle n'est pas travaillée, elle est totalement contre-productive parce qu'il n'y a rien de pire qu'une soirée diapo où tout le monde s'embête, un papy qui radote, c'est insupportable. Et donc, je pense vraiment que pour transmettre, il faut que ce soit de qualité. Mmh. Et donc, ça implique effectivement de monter en respectant, c'est du montage, en respectant le rythme, en enlevant les répétitions, en gardant les silences, mais aussi en trouvant un peu des astuces pour rendre ça vivant. Mmh. Donc, effectivement, dès qu'il y a du son, pour en venir à votre question, dès que je peux un peu focaliser ou trouver un peu des biais pour travailler sur les chansons, sur les bruits dont ils se rappellent, les souvenirs de guerre, les bruits de la guerre, les chansons qu'ils écoutaient quand ils étaient jeunes, la chanson qui symbolise pour eux leur adolescence, et de les faire parler autour de ça, je le fais. Mais c'est les moyens que j'ai trouvés pour rendre ça vivant, de la même manière que je travaille beaucoup avec les photos de famille, parce que j'ai un rapport particulier aux souvenirs sonores, mais j'ai aussi un rapport particulier aux photos de famille, parce que mon père faisait des très 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 belles photos de famille, et mon père m'a enregistré quand j'avais 4 ans en train de réciter des poèmes, etc. Donc tout ça, ça fait partie de ma vie. Et donc je demande aux gens, je construis quand même l'entretien autour de quelques photos essentiel qui représente selon eux un moment important, des moments importants de la vie qu'ils veulent raconter, et ça permet comme ça de construire quelque chose qui soit vraiment un beau moment, un moment qu'on a envie de faire écouter aux autres.
Des images des sons, des musiques, il y en a dans l'histoire, par exemple celle de Brigitte, qui est donc une des portraiturées sonores par vous, Sophie Simoneau. On écoute un extrait, c'est pas fait pour la radio normalement, mais on est content de pouvoir en écouter. On remercie d'ailleurs les personnes qui ont accepté qu'on entende un bout de leur vie ce soir dans Supersonic pour parler des biographies sonores que vous réalisez. Sophie Simoneau, Brigitte.
Moi, j'ai un bon souvenir d'enfance. Alors, par rapport à cette période-là, moi, j'ai choisi une photo, mais j'aurais pu en prendre plein d'autres, mais... D'abord parce que il y a ce nounours qui m'a pas quitté de toute mon enfance. On n'avait pas beaucoup de jouets, on avait une poupée, un nounours. Alors j'adorais ce nounours. Et alors il a un cache-nez. Et puis on est à la plage, quoi. Ça, c'est des bons souvenirs, les souvenirs de plage. C'était des grandes plages du Nord avec des dunes, on se roulait dedans. Et surtout, on passait des journées entières avec mes frères et sœurs. Quand on allait à la plage, il y avait forcément les grands. Donc, pour moi, c'était la fête. On se baignait tout le temps. Enfin, c'était vraiment des moments très heureux, quoi. Mais j'aime bien avec les cheveux en bataille et tout. J'avais toujours les cheveux en bataille. Comme maintenant d'ailleurs, mais bon. Et j'aime bien cette photo. Je me trouve craquante, voilà, sur la photo. Je disais, voilà, garçon manqué, on disait à l'époque. Moi, j'ai un souvenir d'une chanson, mais ça, c'est quand je l'entends. Je suis vachement petite et je vois mes parents. Alors, ma mère écoutait tout le temps la musique. Mon père, il était absolument hermétique à la musique, ou à tout. Alors, une peinture, il savait pas ce que c'est. Enfin, vraiment hermétique à tout ça. Lui, c'était études scientifiques. Et un jour, donc, j'imaginais même pas mon père pouvant danser ou écouter de la musique. Et un jour, il était dans le salon. Il y avait une grande radio. Et les gens à l'époque s'asseyaient devant la radio pour l'écouter. Quand ils écoutaient les nouvelles, mon père, il s'asseyait pour écouter les nouvelles devant la radio. Et ils crient, ils étaient, pourtant la pharmacie était ouverte, ils disent « René, c'est Boum !» Et ils sont venus, tu vois, ça me... Et ils écoutaient ça devant le poste, tu vois. Une chanson de traînée. Tu la connais pas, Boum, quand votre cœur fait boum. Elle est géniale, cette chanson. Et alors, je crois que ça me... C'est comme la... Je crois que c'était comme la scène primitive, si tu veux. J'ai vu mes parents, parce qu'on se touchait pas, hein, je te dis. Voilà, j'ai vu mes parents qui se sont donné la main, qui se sont assis, se sont donné la main, qui se regardaient comme des amoureux, moi. Et j'étais dernière et je voyais ça, mais... Quand je te le dis maintenant, je les vois encore s'éduquer.
La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille.
Et je me souviens une fois, j'étais en Tunisie. En Tunisie, j'avais pas eu du tout la nostalgie de mes parents. Au contraire, j'étais partie là-bas, je crois, pour fuir tout ça. Et un jour, à la radio, il passe boum. Je me suis mise à pleurer, tu vois. Mes parents me manquaient. J'ai souvenir de cette chanson parce que cette chanson m'évoque mes parents heureux, amoureux, enfin, jeunes.
Brigitte s'est racontée à votre micro, Sophie Simoneau, pour raconter sa propre histoire. Est-ce que ça change quelque chose dans le lien par rapport au travail radiophonique que vous avez pu réaliser auparavant, dans le sens où quand vous alliez voir des gens pour faire soit leur portrait, rencontrer, faire un reportage ou un documentaire, forcément, à l'arrière-plan, j'imagine qu'on pense à la production finale, à la diffusion sur les ondes, à éventuellement une forme de rédacteur en chef qui peut être là, un peu au-dessus. Là, mais ils sont leur propre rédacteur en chef. En quelque sorte, vous travaillez avec eux et pour eux. C'est leur voix, mais elle va leur revenir.
Ouais, c'est un objet un peu hybride, en fait. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au départ, il y avait une volonté un peu... rebelle comme ça, de se dire je voulais le faire sans intermédiaire, c'est-à-dire sans un producteur qui soit là pour vous dire ça c'est un bon sujet, ça c'est un bon personnage, et puis aussi parce que en ayant travaillé à la télé, etc., il y a, en gros, on part, on filme, on fait signer des autorisations de tournage avant, et en gros après vous avez plus le droit à rien, vous n'avez plus le droit, donc le contrat de confiance avec le personnage, entre guillemets, il me mettait mal à l'aise, on va dire.
Donc, c'est l'autorisation de tournage, pour être clair, c'est quoi ça veut dire? Vous êtes au courant, vous êtes filmé.
Voilà. Vous pourrez plus rien dire. Ouais. Vous savez que vous êtes filmé, donc une fois que vous le savez, on peut en faire ce qu'on veut. Alors, moi, j'ai travaillé avec un dinosaure. Enfin, je veux dire, j'ai travaillé avec Daniel Carlin qui, lui, c'était incroyable. C'est-à-dire que lui, il avait imposé aux producteurs que les gens aient le droit de revoir leurs séquences après montage final, et ils avaient le droit jusqu'à la fin de dire ça me va, je me sens en raccord par rapport à ce que vous avez fait de moi ou pas. Mais ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Et c'est vrai que moi, j'ai été, entre guillemets, élevée là-dedans, et que j'ai été souvent mal à l'aise après par rapport à ce rapport de confiance un peu compliqué avec les gens. Et donc, il y avait cette volonté-là, en fait, de, quand je disais faire pour directement pour les gens, c'était ça. Après, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est un peu plus compliqué, et qu'aujourd'hui, ce que je fais est un objet un peu hybride, parce que à la fois, il y a un contrat de confiance qui s'établit entre nous. Je demande toujours avant à la personne qui me commande pourquoi elle veut le faire. Donc, il y a une intention qui peut varier. C'est souvent, pour aller vite, c'est rétablir une vérité, transmettre des choses, garder une trace. Enfin, ça peut être divers. Capter l'essence des gens, la spontanéité, une gouaille. Enfin, après, c'est... Alors ce contrat-là, j'essaye de le respecter après au montage, et je garde toujours en tête qu'il faut qu'il soit content, c'est-à-dire que c'est quand même une image d'eux qui va rester, et donc il faut qu'ils se sentent en accord, mais en même temps, il y a une part de création, parce que bah, évidemment, on va tourner 4 heures, 5 heures parfois, et que je vais en faire une émission, donc ça veut dire que je vais pas aller au-delà de 1 heure, 1 heure et quart, et que donc je vais faire un montage, et que donc je vais faire des liens, et que donc je vais faire... comme on sait tous, une interprétation. Donc c'est un objet... il faut qu'ils soient contents à la fin, mais en même temps, je leur dis que c'est quand même une part de création, et donc il y a ce contrat qui s'établit entre nous. Pour l'instant, ça s'est toujours bien passé.
On sent contrat et une forme de proximité. On entendait la Brigitte qui vous tutoyait, donc
des super rencontres. Enfin, c'est aussi pour ça que je le fais. À la fin, effectivement, on finit toujours par se tutoyer. Donc c'est super, mais c'est pour ça que je le fais. Enfin, c'est... effectivement, on passe pas impuniment. Une journée ou deux jours ou avec quelqu'un qui vous raconte toute sa vie sans qu'il se passe rien. Enfin, sinon, on le ferait pas.
Alors, parfois, ils vous racontent leur vie, et puis parfois, vous êtes complice d'un événement, par exemple, d'un anniversaire, il y a des surprises, enfin voilà, vous êtes reporter embarqué dans la famille.
Oui, c'est-à-dire que j'ai plusieurs, j'ai plusieurs formats, parce que j'ai envie d'en vivre, parce que c'est une petite fabrique sonore, etc. Et que donc, j'ai effectivement développé un certain nombre de formats. Globalement, c'est tout ce que je fais, c'est des cadeaux qu'on se fait à soi ou qu'on donne aux autres. Alors, ça peut être des biographies sonores. Généralement, d'ailleurs, les biographies, c'est pas les personnes âgées ou qui se le commandent pour eux-mêmes. C'est souvent les enfants qui vont se cotiser entre eux pour offrir à leurs parents la possibilité de raconter leur vie. C'est plus souvent comme ça que ça se passe, parce que eux, ils ont un peu peur. Ils se disent, qui je suis, moi, pour raconter ça. Donc, il y a ça, mais il y a aussi des portraits de gamins à offrir aux grands-parents. Il y a aussi, effectivement, pour des fêtes ou des anniversaires, les cadeaux collectifs, on sait jamais quoi faire. Bon, voilà, là, il y a une sorte de... C'est un portrait mystère où, alors, tout le monde va parler des gens, va parler de la personne qu'on va célébrer ce soir-là, et on va faire soit un livre sonore, soit un diaporama sonore. Donc, voilà, c'est... En fait, je dirais que le dénominateur commun de tout ça, parce que il y a plusieurs formats, c'est des cadeaux qu'on se fait, etc., qu'on va garder pour toujours, ou qu'on va ressortir peut-être dans 20 ans, on va réécouter la voix des gamins. Voilà. Mais c'est tous, globalement, c'est, à chaque fois, c'est des déclarations d'amour. C'est-à-dire que c'est ce que tu dis m'intéresse, tu fais partie de ma vie, donc je vais t'envoyer un petit bout de ma vie dans ta vie, et puis tu fais partie de ma vie, donc c'est pour ça, on pense à toi, ce que tu as vécu, ça m'intéresse, ce que tu es, enfin, je t'aime. En gros, si on devait résumer tous ces formats, c'est des déclarations d'amour.
Écoute, est-ce que tu peux retarder un petit peu les choses pour pas arriver trop tôt quand même? Je peux pas commander les embouteillages, mais s'il y en avait un, ça m'arrangerait. Ouais, il faut qu'il traîne. Mais vous êtes où là? Vous venez de partir? Ouais, mais faut, voilà, prenez vraiment votre temps, hein, parce que, ouais, tout à l'heure. Noir, donc il n'y en a plus pour longtemps. Donc on ferme la lumière, il n'y en a plus pour très longtemps.
Attention,
Allez, ça y est, ça y est.
Oh là là, oh là 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 là, ça va? Oh là là, je...
Bonjour. Eh ben merci. Merci. Bon anniversaire. Eh ben bravo.
Alors, l'apéritif se termine, le buffet se prépare, et je crois que c'est sûrement le bon moment pour que...
Donc on va commencer par une petite chanson. C'est une...
Ah, Isabelle.
Oui, la soirée, évidemment, a continué. C'était l'anniversaire de Gérard qui a fêté ses 80 ans, et vous étiez là, Sophie Simoneau, pour capter la surprise.
Le format du reporter embarqué, qui était un des cinq formats que je propose, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas entré dans les mœurs encore de suivre un événement en son, en radio, en son. J'ai fait aussi pour des amis au départ, et puis j'ai refait après des mariages, des trucs comme ça. J'adore, c'est super. Mais c'est vrai que on est là, on est avec nos micros, donc on est dans le champ de toutes les photos. Donc on cache toutes les photos parce que on voit un lutin avec un zoom ou avec un téléphone et ça le fait pas. Donc et puis c'est vrai que pour que ce soit bien, ça demande du temps. Avant, pendant, après la fête, etc. Et donc ça demande, donc c'est vite cher. Ouais. Et en fait, les gens comprennent pas du tout pourquoi c'est cher. En fait, ils se disent mais moi je peux le faire avec mon iPhone. Et donc c'est vrai que c'est pas tout à fait encore rentré dans les mœurs de suivre des événements comme ça. Bon après moi comme je propose des formats, donc les gens, moi je suis à la disposition des gens. Moi je m'adapte selon les envies, selon les idées. Après j'ai aussi un format plus court que j'appelle le bonbon sonore, qui est en fait pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais qui ont envie de faire une petite pastille sonore pour faire une déclaration d'amour pour la Saint-Valentin, ce genre de choses, ou raconter une recette de famille qu'on a envie de transmettre, ou d'envoyer les premiers mots de son gamin aux grands-parents qui sont loin. Bon, évidemment, je l'habille, je mets des ambiances, ça se travaille pour que ce soit ça, pour créer une émotion. Mais
il y a une chose que les gens ne se rendent pas forcément compte et pas forcément une évidence sur ce que ça peut représenter comme travail, mais même comme rendu, c'est-à-dire quelle forme vous donnez, c'est-à-dire que comme le son évidemment est impalpable, quand les gens peuvent tomber sur les informations qui sont sur votre site, le son de ta voix, c'est ça, le son de ta voix.com, où vous racontez tout ça, Sophie Simoneau, finalement, est-ce que la question c'est possible, mais quelle forme ça va prendre? Alors j'ai vu que vous avez apporté pas mal d'objets, donc finalement il faut rematérialiser le son, voilà.
Bon, c'est vrai que offrir du son tout seul, c'est pas facile. Pour l'instant, c'est encore sous la. Alors, c'est pour ça que. Enfin, comment dire C'est aussi pour ça que j'ai voulu travailler avec les photos de famille. Ouais. C'est parce que, bon, d'abord parce que j'adore ça. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on fait plus d'albums photos de famille. Enfin, on a tendance à plus le faire. Et quand j'ai cherché, en fait, une idée. Il fallait bien un objet à offrir. Il fallait bien quelque chose de joli, quelque chose qui fasse plaisir et qui touche et qui soit sympa, qui soit agréable, un cadeau quoi. Donc j'ai choisi cette forme du livre sonore, du livre audio, de l'album photo sonore, un peu comme les livres de gamins en fait qu'on avait quand on était petit, où il y avait ce CD qui était glissé à la première page et puis après il y avait une petite pastille. Là, il y avait le son qui passait. On savait que cette image, elle était raccordée au son.
Donc moi, c'est ça, pas des CD, c'est des cassettes.
Voilà, ben moi aussi, c'était des cassettes, mais bon, voilà, c'est pareil. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un. Du coup, les gens, souvent, quand c'est possible, parce que tout le monde n'a pas des photos, mais on se débrouille toujours. C'est-à-dire, les gens parlent dans le son, parlent de photos, généralement. Et donc, j'en profite pour faire un album photo. Et le son est glissé dans l'album photo. Voilà. Alors, pour l'instant, c'est du CD. Bientôt, il n'y aura plus de CD. Donc, ce sera. Peut-être des clés USB jolies, je ne sais pas. Il faudra trouver des choses. Et puis voilà, donc ça peut être un CD avec un livret avec des photos dedans. Ça peut être un album photo sonore. Ça peut être aussi des diaporamas. Par exemple, quand je fais des mariages et que donc le but du portrait mystère, c'est que chacun choisisse une photo emblématique de la personnalité de la personne qui se marie, des personnes qui se marient ou de la personne qu'on célèbre. Et là, donc je fais des interviews et je mélange des interviews et des photos. Donc là, ça peut prendre la forme, par exemple, d'un diaporama qu'on projette entre la poire et le fromage. Et généralement, ça fait son petit effet, quoi. C'est assez sympa parce que ça garde la fraîcheur, on va dire, du cadeau collectif, un peu voilà, pas trop formaté quand même, mais en étant pro, professionnel, et donc pas trop, pas ennuyeux, quoi.
Est-ce que vous savez comment ça circule en ce qui concerne justement les récits personnels, les biographies, les portraits? Comment ça circule dans les familles? Comment ça vous revient aussi parfois? C'est possible, ça?
Alors, ce que je sais, c'est que souvent on me demande plusieurs albums photos, parce que donc il y en a un pour les personnes qui ont donné de la voix. Et leur voix. Et puis après, il y en a pour les autres. Voilà, on en fait plus pour les gens. Et après, le retour, c'est-à-dire que ce que je sais, c'est que les gens sont contents. Voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport au retour.
On parle des biographies sonores de Sophie Simonneau ce soir dans Supersonic.
Oh là là, Oma, que l'ange tu l'as.
Oma, elle a 70 ans.
Ça veut dire que ta grand-mère, en fait, elle avait 6 ans il y a 64 ans.
Et moi, j'étais pas née.
Ah ben non.
Et papy et Manu, ils ont quel âge?
Ils ont 92 ans.
92 ans?
Waouh, ouais. C'est beaucoup, hein.
C'est presque 100.
100!
Oma, elle est pas si vieille que ça.
En plus, c'est vrai, ma mère, elle n'a pas du tout les cheveux gris, tu sais. Alors, elle n'a pas l'air d'avoir son âge. Et 70 ans, ça veut pas, pour eux, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait.
Oui, oui, pour moi, effectivement, c'est assez vieux. Oui, j'y accole quelqu'un qui a du mal à se déplacer, qui est chiant dans le métro, qui est un vieux, tout simplement. Et ouais, bon, ma grand-mère, elle est dynamique, elle fait plein de choses, elle est joyeuse, elle a les cheveux courts. Et elle fait pas les cheveux courts brushing, mémère, tout ça, avec le petit chien et tout. Elle est vachement plus jeune dans sa façon de s'habiller. Des grands pantalons avec plein de couleurs, des patchwork. C'est, voilà, elle est pas dans le raisonnable et le comment je devrais être. Et ça lui fait plaisir de nous voir, mais je pense qu'elle a un côté très indépendant et libre. C'est une grand-mère célibataire et endurcie. Face à la vie. Et je trouve ça bien.
Il était un jour.
Alors d'abord, bah écoute, on a essayé de faire on a essayé de rassembler nos souvenirs.
Oh là là.
C'était l'idée, c'est de faire souvenir des voix des enfants et tout pour l'anniversaire de ma mère qui va avoir 70 ans, lui composer une chanson, avoir fabriquer quelque chose, tu vois.
De nos petites.
Voilà, c'est ça, nous-mêmes. Mais c'est super dur d'écrire une chanson. Enfin, pour nous, c'est dur en tous les cas. Bon, on va voir, hein. Mais ça nous semble un petit peu plat sur l'air de la volette, mais au moins on a quelque chose. Alors, tu te souviens de l'air, Léonard?
Non.
Et Talia?
Oh là là, oh ma, quel âge as-tu là? Voilà.
On y va? Allons-y. Oh là là.
Oma, quel âge as-tu là? 66, ou 7 fois 10, 66, ou 7 fois 10, c'est bien 70. Tu es en Bretagne, il n'y a pas de montagne. On vient en vacances, on a de la chance. 66, ou 7 fois 10, 66.
Ou cette fois-ci, c'est bien 70. Oui, on a. Et... allez, 1, 2.
Tu nous fais des crêpes drôlement
bien faites.
Et toutes tes chouquettes,
presque des miettes.
66 ou 7 fois 10, 66
ou 7 fois 10, c'est bien 70. C'est
ouais. On est arrivé au bout.
Voilà, et c'est une immersion aussi dans les familles, Sophie Simoneau, que vous faites à travers ce travail de biographie sonore, d'accompagnement sonore en fait, d'une tranche de vie, vraiment. J'imagine que la proximité, elle demeure après ces moments.
Tout à fait. Mais c'est vrai qu'à écouter comme ça, on se dit, c'est pas... Enfin, ça a un côté un peu, comment dire... C'est très familial, donc c'est pas forcément fait pour être passé à la radio comme ça. Ça a un côté un petit peu, je sais pas comment dire, désuet presque. Enfin, c'est des petites tranches de vie, mais c'est vraiment fait pour offrir. Enfin, en l'occurrence, là, c'était pour offrir à la grand-mère. Mmh. Et puis après, il parlait de la grand-mère, etc. Donc, je vous laisse imaginer quand elle a reçu ça par la poste. Ouais, c'était quand même parce que ça reste un cadeau unique, atypique, très émouvant. Bon après. Emmanuelle, qu'on entend, la maman, elle avait c'était intéressant parce qu'elle avait un rapport très particulier à la voix et à la disparition. Et c'est pour ça qu'elle avait voulu faire ça. Parce que quand je disais que c'est pas toujours facile de faire comprendre la voix, le travail sur le son, c'est pas qu'aujourd'hui, ça va de mieux en mieux, mais c'est pas quelque chose d'immédiat. Mmh. Aujourd'hui, c'est pas hyper mainstream quand même. Mmh. Bon, elle avait perdu un enfant et elle avait pas gardé la voix. Et donc, quand ses enfants ont eu le même âge que ce fils, elle a voulu faire ça parce qu'elle voulait garder, elle voulait capter, elle voulait pas perdre, elle voulait garder avec elle. Et elle avait tout de suite compris la puissance de la voix, enfin
de la présence,
que la voix, c'est la. Et c'est elle qui m'a dit un jour, quand on entend, on voit, mais quand on voit, on n'entend pas. Voilà, et c'est vrai que tous les gens avec qui je travaille, c'est quand même des gens qui ont ça en commun, qui comprennent la puissance de la voix. C'est souvent des gens qui écoutent beaucoup la radio d'ailleurs, mais c'est pas toujours évident quand même comme démarche.
C'est une enregistreuse portraitiste de voix, de biographie vocale et sonore qui était avec nous dans la première partie de Supersonique ce soir, Sophie Simoneau. Merci beaucoup d'être passée par ici. Le son de ta voix.com pour ceux qui veulent entendre d'autres extraits aussi, au-delà de ceux qu'on a pu entendre ce soir, et puis pouvoir aussi les différents formats qui sont possibles pour entrer éventuellement en contact avec vous, tout simplement pour savoir ce que c'est qu'une biographe sonore après cette première rencontre ce soir. Merci
avec
beaucoup.
Avec plaisir. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Que toqué su símbolo, toqué la pintura y todavía estaba húmeda. Entonces empecé a correr para encontrarle y justo cuando daba la vuelta ya había desaparecido.
La voix, la trace, on continue dans Supersonique.
Escrito. Sí, bueno, me lo dejó escrito en Valdeacederas, me lo dejó escrito. Sí, me acuerdo perfectamente. Cuando llegué a esa estación,
el cuello. Escrito.
Yo no hago más que.
Me reconocerás por el cuello. Entonces.
Llevo prácticamente 3 meses buscando ese cuello. Veo menos en esos momentos porque estamos todos más apretados, pero también hay más gente en el andén.
Creo que lo voy a
Siempre tengo la posibilidad de andar de un lado para otro.
Me monto en el vagón. Siempre procuro que sea en momentos en los que hay mucha gente, porque aunque miro poco, por lo menos tengo la sensación de estar acompañada. Es lo mismo, porque sé que está cerca,
A ver, me ha pasado lo mismo otra vez, pero no me importa.
Creo que
está. Pero he llegado a tener un orgasmo. Sí.
No pasa nada. Simplemente.
Justo en el momento en que le voy a decir. Pasa que.
Claro que todavía no es el momento.
Por su momento pueden que digan que estoy loca.
La gente se siente un poco agredida cuando la miro porque se suben las solapas. Claro, porque como ven esa mirada insistente, observando su cuello, piensan que es por algo y no sé, tienen como una idea. ¡Está ahí! ¡Es él!
¡No!
¡Ah, vale!
¿Qué?
Llevas mucho tiempo aquí. ¿A dónde vas ahora?
¡Ahora, ahora, ahora!
¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Oye!
¿Qué?
¡Llámame!
Vale.
Nos vemos, ¿no?
Vale.
¡Hasta luego!
France Culture, Supersonic de Thomas Baumgartner.
L'escalier des aveugles, extrait, court extrait de cette pièce de 1991 signée Luc Ferrari, commandée à l'époque par le Centre National de Diffusion Musicale Espagnole et la Radio Espagnole. Luc Ferrari, compositeur totalement libre, collecteur de sons du réel qu'il intégrait dans ses compositions. Mais avant de les intégrer, évidemment, il fallait voyager, il fallait enregistrer, il fallait répertorier, ordonner les sons. Bonsoir, Brunel Ferrari.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. C'est toute une histoire, hein, cette palette, cette collection de sons. Bonsoir, Alice Berger.
Bonsoir.
Vous travaillez à Radio France, vous êtes ingénieur du son.
Tout à fait.
Ça fait combien de temps que vous connaissez Brunel Ferrari, Alice Berger?
Nous nous connaissons depuis 2009.
Ouais.
Août 2009, ouais, oui. Pour être précise.
Une rencontre, un vrai duo maintenant qui existe depuis 2009. Et vous vous êtes rencontrés précisément autour de cette question, de cette palette des sons, de ces unités sonores qui ont servi à Luc Ferrari pour ses compositions. Le point de départ de votre rencontre, c'est une collection de bandes magnétiques, en fait, Brunel Ferrari, c'est ça?
Oui, je souhaitais archiver toutes ces bandes. Il y a à peu près 1000 bandes magnétiques à l'atelier. Et je me suis dit, c'est quand même trop dangereux de les laisser en l'état. Et qu'il valait mieux les numériser. Et voilà, j'ai eu l'aide du GRM, groupe de recherche musicale. Et avec Alice, nous avons commencé à numériser toutes ces bandes. Et Alice a fait un travail extraordinaire parce que non seulement elle a numérisé les bandes, mais elle a fait un journal de tous les sons avec une grande précision, avec la date, avec enfin tous les renseignements nécessaires pour retrouver facilement un son.
Mais Alice Berger, comment vous vous êtes retrouvée, vous, donc, en ce jour, ce premier jour de 2009, dans l'atelier, parce que oui, à l'atelier du compositeur, des compositeurs, pour Brunel Ferrari, vous êtes compositrice aussi, et donc face à ces 1000 bandes, comment vous vous êtes retrouvée à cet endroit-là?
Mais c'est une belle histoire, je trouve, parce que moi, je travaillais au GRM, en fait. Voilà. Et puis, Brunel a fait appel à Daniel Teruggi, qui, en fait, m'a proposé de faire ça pendant un été. Au départ, c'était voilà, on s'était dit bon, on va faire un premier essai, allons-y.
Un stage d'été.
Après, on fait un stage d'été. Et en fait, on s'est retrouvés donc avec Daniel dans l'atelier.
Daniel Teruggi, c'est le patron du NAGRM, voilà, du groupe de recherche musicale.
Ouais. Tout à fait. Pardon. Donc on s'est retrouvés avec Daniel à rencontrer Brunhilde dans son atelier. Et en fait, moi, quand j'ai vu l'ampleur du travail à effectuer, je me suis dit que ça pouvait prendre plus qu'un été, probablement. Et en fait, dès le départ, j'ai eu vraiment cette intention d'aller jusqu'au bout, parce que dans ce que propose Luc, dans sa manière de faire, dans sa manière de composer, etc., il y a cette démarche de composition qui existe dès le début. C'est-à-dire au moment où il appuie sur REC, sur son enregistreur, et même avant, même dans la manière dont il va préparer, choisir ses lieux, imaginer des scènes, etc., c'est dès le début que ça se passe. Donc pour moi, tout était un cheminement, voilà, tout coulait en fait, ça s'enchaînait, etc. Donc la session d'été s'est transformée en des plusieurs sessions, et je pense que si on met, parce qu'on ne travaille pas quotidiennement avec Brunhilde ensemble, mais si on met bout à bout toutes nos sessions, je pense qu'on arrive à 3 ans, de travail,
deux ans
et demi, 3 ans de travail, et au jour d'aujourd'hui, on est quasiment à la fin de la numérisation. Voilà, il reste quelques bandes bien cachées qu'on retrouve de temps en temps, des petites pépites, mais globalement tout a été fait.
Mais vous aviez, vous, quel lien, alors en tant que vous travailliez donc à l'époque au sein du groupe de recherche musicale, donc c'est le lieu où se croisent et la technique et la création musicale, c'est le lieu de l'invention électroacoustique, c'est un lieu où, dont a fait partie Luc Ferrari, mais dont il est parti, il a inventé sa propre manière. Vous, vous aviez quel lien, donc, à ce moment-là, avec, en 2009, au moment de ce stage d'été, vous aviez quel lien avec l'œuvre de Luc Ferrari?
Alors, moi, depuis assez longtemps, en fait, je suis dans le milieu de la musique électroacoustique, électronique. Voilà, moi, je suis musicienne. J'ai pas mal de liens avec, la prise de son, la composition, le reportage sonore, etc. Et c'est vrai que, du fait d'être au GRM, j'avais cette curiosité. De voir un petit peu qu'est-ce qui avait été fait dans ce groupe-là. Donc, en 2009, j'ai envie de dire, je savais presque rien de Luc Ferrari, pour faire la blague, mais non, mais voilà, j'avais effectivement quelques références, mais j'étais très très curieuse, extrêmement curieuse. Et en fait, ça n'a fait que amplifier au fur et à mesure des sessions, et c'est complètement hallucinant, en fait.
Mais pour dire que depuis ce moment-là, c'est toi la personne qui connaît le mieux tous les sons de Luc. Personne d'autre ne connaît.
C'est-à-dire qu'on n'en a pas laissé
un
seul.
On connaît tous les secrets.
Oui. Mais c'est ça qui est étonnant avec ce travail, c'est qu'on, encore une fois, on retrouve l'unité de base, la couleur de la palette, la couleur primaire presque de chaque pièce. Justement, on va pouvoir s'amuser à faire des ponts entre l'unité même et puis ce que ça a pu devenir dans certaines pièces. Mais pour vous, Bruno Ferrari, c'est aussi on parlait du lien entre image et son avec Sophie Simoneau à l'instant. Ça fait revenir les voyages, les images aussi qui et en plus, il y a une présence, il y a votre voix à vous, il y a celle de Luc Ferrari, beaucoup. Donc il y a cette présence-là qui vous a accompagné depuis de cette numérisation en marche pendant 6 ans.
Oui, c'est vrai que nous avons beaucoup travaillé ensemble aussi. Ouais. Il a eu souvent envie d'avoir ma voix, en allemand surtout. Et donc, je suis présente dans beaucoup d'œuvres. Et en dehors de ma voix, j'ai quand même assisté beaucoup à ses créations, à ses pièces, ses compositions. Et réécouter le tout maintenant, ça n'est pas rien. Hein.
Bien sûr.
On revit tous les moments. On revit vraiment tous les lieux, tous les moments, tous les états d'âme.
Et ça, est-ce que ça a nourri le journal dont vous parliez à l'instant, Alice Berger, quand vous avez pris des notes sur justement tel ou tel son ?
C'était même la condition sine qua non pour moi. C'est-à-dire que à chaque bande numérisée, donc c'est de la numérisation en temps réel, donc on était toutes les deux à écouter. Donc moi, je prenais des notes à la fois techniques, sur la qualité, etc., puis aussi sur le contenu, pour pouvoir piocher dedans, si on a envie, etc. Mais surtout, il y avait quelque chose qui était extrêmement important pour moi, c'était d'avoir les commentaires de Brunhilde. La mise en contexte, quels souvenirs ça lui rappelait, est-ce qu'elle avait des anecdotes à raconter sur ses enregistrements, etc. Et en fait, au fur et à mesure, on a partagé des moments de pure intimité, où des fois, j'avais vraiment cette impression de connaître Luc. À travers, parce que moi, en 2009, vu que j'ai rencontré Brunhilde en 2009, Luc était déjà parti. Et j'ai pas connu Luc du tout. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment ce sentiment de le connaître très bien et peut-être d'en avoir une image un peu fantasmée, mais en tout cas de partager quelque chose avec lui.
Brunhilde Ferrari, vous étiez là au moment de l'enregistrement de Far West News.
Oui.
C'était 98-99.
Oui.
C'était. Quelles circonstances, c'était où ?
C'était dans le sud-ouest américain, et nous avons eu la demande de la radio de Hilversum de faire un Hörspiel.
Un Hörspiel, donc c'est
un Hörspiel, une création, une composition radiophonique. Et Luc a proposé de faire ce voyage dans le Far West. Et nous sommes partis, et il en a fait 3 épisodes. Et c'est un journal du début à la fin, sans tricher.
il y a vraiment la suite de chaque moment qui est relatée. Bon, c'est monté, bien sûr, oui, mais bien sûr. Il y a... Non, c'est vraiment très, très fidèle de ce qu'on a entendu, de ce qu'on avait fait, etc. Bon, il a composé.
Ben, on va écouter justement une unité numérisée par vous de ce qui a donné lieu ensuite à Far West News. Donc voilà un extrait ferroviaire, on va dire. Voilà, on est dans l'unité du son, on sent évidemment les images que ça provoque, mais il y a aussi ce qui devait forcément être dans la recherche de Luc Ferrari, ces petits couinements de train qui peuvent servir peut-être à autre chose, enfin je ne sais pas, c'est ça le travail de ce type de compositeur qui était quand même assez unique en son genre, c'était aussi ces captations, c'est des captations de hasard, c'est des captations où Luc Ferrari savait ce qu'allait devenir.
Il avait la curiosité avant de partir, avant de quitter Paris, il s'était beaucoup documenté sur ce que nous pourrions visiter et ce qu'il pourrait enregistrer. Et il avait connaissance de ce train de Durango, un petit. Non, pas si petit, un train avec une locomotive à vapeur et des wagons en bois. Et donc, il avait envie d'enregistrer, d'écouter ce que c'était, ce voyage. Et sur le quai, d'ailleurs, avant que le train ne parte, il y a beaucoup de préparation, on entend. Et puis voilà. Et... pendant tout ce voyage, il y a eu très peu d'improvisation.
C'était très repéré en amont.
Oui.
Oui. Ben alors peut-être qu'on va retrouver cette unité-là sonore dans... on a eu l'unité, la matière de base, et puis voilà un extrait de ce qui arrive quelques semaines ou quelques mois plus tard, monté, mixé. C'est une pièce sonore, Far West News. Cette fois, c'est Far West News épisode 2, précisément. Peut-être qu'il y a un bout du train de Durango, peut-être pas, mais c'est ça la pièce.
Feet.
Spectrum, September 19th, 1998. He's been waiting 3 years to do this, said Doug Wolfenstein of his son James. It's his choice. If he wants to do this, I'll support him, even if he wants to take it farther and become a cowboy.
open.
Oh. How are you?
Just fine. What can I get for you?
Is it possible to eat
something? Something to eat? I've got some good tamales in the steamer.
Tomatoes?
Tamales.
Tamales?
They're like a meat roll. They're
And
you get
tomatoes.
Sauce for tamales.
Okay,
tamales.
Yes.
You have sandwiches?
I don't have sandwiches, just what you see there.
Comme
Bagdad Café.
Voilà, Bagdad Café.
En ce qui me concerne, je suis plutôt excité par les choses normales. Oui, c'est-à-dire par les choses les plus normales. Enfin, c'est bête de dire normal et banal, hein, de faire. Mais moi, quand je dis banal, c'est pas du tout péjoratif. C'est-à-dire banalité, c'est le quotidien, c'est le fait de s'asseoir dans un fauteuil ou sur une chaise quand on n'a pas de fauteuil. C'est le fait de rencontrer quelqu'un sans avoir des choses évidentes à lui dire. C'est-à-dire de causer de tout ce qui peut arriver. J'ai le front qui me démange, j'ai oublié d'acheter des pommes de terre, etc. Oui, absolument, oui.
Oui, mais alors t'as pas du tout répondu.
Donc le quotidien, le banal et l'ordinaire, c'est mon excitant le plus souvent. C'est une drôle de phrase, hein. C'est mon excitant le plus souvent. Les choses de la vie sont des choses excitantes. Sinon, on ne ferait jamais d'enfants. Hein.
Sinon, on ne vivrait pas.
On ne vivrait pas. Et...
On part sur le principe que la vie, c'est excitant.
Alors, oui.
Ça, c'est un principe acquis.
Oui, je pense que c'est fondamental de penser ça. C'est-à-dire que si on dit que la vie n'est pas excitante, on s'emmerde.
Toi, tu t'emmerdes pas.
Ben, si, ça m'arrive. Ça, si, il y a des grands moments où je m'ennuie énormément.
Oui.
Ah oui, 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 oui. Et c'est à ce moment-là, et quand je m'emmerde, c'est que je suis en panne. C'est-à-dire, quand mon imagination ne fonctionne pas, je m'emmerde énormément parce que je ne sais pas comment la réactiver, alors qu'il n'y a qu'à regarder les choses pour la réactiver. Les choses ordinaires.
Viennent de la même voix. Qu'elles soient nées de la colère, des peines, des douleurs, des cris de joie. Toutes les musiques du monde viennent de l'âme, viennent de la même voix.
Toutes les musiques, on entend un bout de ce morceau, toutes les musiques qu'on trouve sur une intégrale parue chez Frémaux et Associés, l'intégrale David et Dominique, c'est de la chanson, et il y a une composition inédite de Luc Ferrari, c'est ce morceau, toutes les musiques, sur des paroles de David Gis, le David de David et Dominique, c'est David Gis, et c'est David Gis qui posait des questions en 1991 à Luc Ferrari. On a entendu quelques propos de Luc Ferrari. Ça résumé plutôt bien, non? J'ai l'impression, son attitude par rapport au son lui-même, non? Le oui. Son quotidien, Bruno Ferrari, oui. Il l'intègre, le son du réel, banal, je crois qu'il dit le mot à un moment
oui,
donné.
Oui, il n'a jamais cherché vraiment des choses exceptionnelles, voyantes. Ou... Non, non,
le son du quotidien lui convenait parfaitement. Mmh. Le son du quotidien, le son de la société quotidienne aussi lui convenait parfaitement. Et c'est ça qu'il cherchait d'ailleurs.
Mais ce dont on se rend compte dans sa démarche, c'est que c'est le son du quotidien certes, mais enregistré par un compositeur. Donc l'attitude, ne serait-ce que la manière de tenir le micro, la manière de s'approcher, l'intérêt pour le lieu, ce que vous disiez tout à l'heure, Alice Berger, où on enregistre, bah, il y a déjà le geste du compositeur à ce moment-là.
Tout à fait. Ouais. Oui, non, mais il en était très, très... Enfin, il l'avait très soigné. Quand il a commencé à faire des prises de son, c'était au groupe de recherche musicale avec Pierre Schaeffer. Et il a pu sortir pour la première fois avec un Agra dehors, parce que le premier enregistreur portable, c'est là où il a fait son école de prise de son. Mmh. Et il est vrai que il reconnaissait toujours les sons qu'il avait enregistrés lui-même. Mmh. Il reconnaissait le geste. Il reconnaissait l'intérêt qu'avait le son. Et c'était bien son son. Et c'était déjà partie de la composition.
Alice Berger, vous qui êtes ingénieure du son, et donc adoubée par Bruno Ferrari comme la meilleure connaisseuse des sons de Luc Ferrari, comment vous pourriez qualifier ce son-là? Comment vous, j'imagine que vous le reconnaissez maintenant à l'oreille, mais comment est-ce qu'il pourrait se qualifier avec des mots?
C'est une bonne question. Je pense que Luc avait cette manière d'enregistrer, j'ai envie d'employer le mot intime, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le meilleur qualificatif. Parce que il avait cette manière d'enregistrer avec une certaine douceur, avec écoute. On peut qualifier la manière dont il faisait ses prises de son par une extrême écoute. C'est-à-dire qu'en fait, tout était pour lui source de musique. Et le silence était absolument impressionnant au micro de Luc Ferrari, en fait. Mais c'est une très bonne question.
On partage son écoute, évidemment, j'imagine, en se plongeant dans ses propres sons, donc on se plonge dans sa propre écoute. Ça a donné lieu à une idée, Bruno Ferrari, qui est celle du prix Presque Rien, proposé aux compositeurs de partout dans le monde d'utiliser ces sons que vous avez numérisés, donc depuis 6 ans, 7 ans, avec Alice Berger, les proposer, en proposer certains, pour une recomposition. Mais est-ce que c'est possible d'avoir un acte de compositeur avec le son d'un autre?
Oh, c'est très difficile pour certains, parce que depuis que j'ai lancé ce concours Presque Rien, dont on m'a remis le prix pour le troisième dernièrement, il y a eu pas mal de réactions de compositeurs qui me disaient « Ou bien, quelle merveille de pouvoir travailler avec les sons que Luc a écoutés ». Ou d'autres qui étaient très, très, très gênés de les utiliser parce qu'ils n'osaient pas. D'ailleurs, ça s'entend dans les pièces qui m'ont été envoyées. Il y en a qui n'osent pas y toucher. Ouais. Ils les montrent telles quelles.
Oui, c'est ça.
Ils les mettent en forme, oui, c'est ça.
Ah oui, mais ils ne manipulent pas, en fait. Il n'y a pas de date de composition dessus.
Non, non. Et d'autres travaillent vraiment avec et on sent qu'ils sont heureux.
Et on comprend aussi que c'est une manière de remettre dans la machine ces sons captés durant toute une vie de compositeur par Luc Ferrari, et que vous avez donc que vous êtes en train de terminer de numériser un travail du titan que vous avez mené en duo, Bruno Ferrari et Alice Berger. Alors bonne fin pour ça et puis bonne suite, parce que forcément un travail comme ça va forcément donner des suites pour cette œuvre dont on comprend dont la matière de cette œuvre reste vivante aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes les deux d'être passées par ici.
Merci beaucoup.
Et c'est ainsi que se termine Supersonic ce soir. Pour aller plus loin, pour avoir les références et les compléments relatifs à nos conversations de ce soir et les podcasts, rendez-vous sur franceculture.fr. On signalera notamment la parution sur un label new-yorkais, Mode Records, de Éphémère, Luc Ferrari, Bruno Ferrari, Vincent Royer. Voilà encore une histoire de sons qui sont remis dans la machine, réinterprétés en l'occurrence par l'altiste Vincent Royer. Supersonique est préparée et coordonnée par Inès De Bruyne et réalisée par Véronique Lamandour. Et au son ce soir, il y avait Philippe Bredin. Et tout de suite, vous plongez dans les nuits de France Culture et nous, on se retrouve samedi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.